Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est une joie pour nous d'être avec vous ce matin, de partager ce culte. Nous avons déjà ressenti la bonne présence du Seigneur et c'est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Je vous apporte les salutations de l'église de Saint-Antoine. Voilà, il vous salue bien. Nous sommes donc là-bas depuis quelques temps, déjà 4 années. Et le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous encourage. Nous prions pour que le Seigneur nous permette de voir son Église aller de l'avant et progresser, et nous comptons sur l'aide du Seigneur. Voilà, nous allons ce matin ouvrir la bonne parole de Dieu, et je vous invite à faire une lecture dans le livre de Josué, Josué chapitre 6. Voilà, Josué dans l'Ancien Testament. Chapitre 6. Voilà, à partir du verset 1er. Il nous est dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. » Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un merveilleux texte tiré de ce livre de Josué. Nous connaissons certainement un petit peu l'histoire de Josué. Josué, c'est cet homme de Dieu qui va être un instrument béni pour permettre à ce peuple d'Israël d'aller à la conquête de Canaan. Pour faire un petit peu eh bien, le rappel historique ce matin, Israël se trouve là au début de cette conquête. Et il se dresse devant ce peuple un obstacle infranchissable. C'est une ville qui s'appelle Jéricho, une ville cananéenne qui est renommée pour être fortifiée, pour avoir d'épaisses murailles. Cependant, pour Josué, il n'a pas le choix. Il doit s'emparer de cette ville pour entrer dans le pays promis. Ce matin, j'aimerais, avec l'aide de ce texte, voir avec vous comment nous pouvons relever les défis qui sont placés devant nous. Peut-être que ce matin, vous êtes venu en étant pleinement conscient que ces défis sont au-dessus de votre portée. Pourtant, à la lecture de ces quelques versets, nous voyons ce matin que notre Dieu est le Dieu de l'impossible et qu'il est capable de renverser les murailles. Il est capable de détruire l'œuvre de l'ennemi. Et il désire et il désirait que son peuple puisse être ce peuple capable d'abattre les murailles. J'aimerais donc mettre en évidence, avec l'aide de ce texte, 4 principes ce matin, qui devrait nous aider à nous emparer de ce que le Seigneur a promis. Jéricho, c'est l'image de tout ce qui est fermé, de tout ce qui est barricadé. La Bible nous dit que cette ville, elle était vraiment fermée, renfermée, inaccessible. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait entrer. Il y a comme quelque chose d'impénétrable, d'imprenable. Cependant, quand nous lisons ce verset, nous apercevons que le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour encourager son serviteur Josué. Seigneur est là pour encourager son peuple et pour lui dire, eh bien, courage, n'abandonne pas, parce que ces murailles que tu vois devant toi, bientôt, je vais les abattre. Alléluia. Je crois qu'à travers ces quelques versets ce matin, le Seigneur voudrait certainement nous encourager les uns les autres, que de murailles devant nous, que d'obstacles qui nous paraissent imprenables, infranchissables, mais avec notre Seigneur, nous le savons, tout est possible. Alléluia. Rien n'est impossible. Gloire à Dieu. Premier principe, nous le découvrons à travers cette parole de Dieu à l'égard de Josué. Dieu va lui dire « Vois, vois ». Dieu demande à Josué d'observer, en fait, de prendre le temps de l'observation. « Vois, regarde, regarde cette ville de Jéricho. » Un mot qui signifie « regarder, remarquer, prendre garde ». Fixer les yeux dans le but d'examiner quelque chose de près, inspecter, considérer, avoir cette vision, rechercher quelque chose de précis. Eh bien, le Seigneur emploie ce mot pour Josué et lui dit « Regarde, vois ». Nous pouvons partir de là, eh bien, tirer un enseignement et dire ce matin que notre manière de voir, d'observer nos problèmes, nos défis, va déterminer aussi notre avenir. Dieu demande à Josué de voir Jéricho d'une manière nouvelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment Dieu parle à Josué, mais Dieu va lui dire, « Regarde, vois, je livre entre tes mains Jéricho. » Dieu est en train de dire à Josué, il faut que tu regardes, il faut que tu examines, mais tu as besoin de regarder cette ville d'une nouvelle manière. Tu as besoin de considérer que la victoire est déjà acquise. Tu as besoin de regarder cette ville d'une manière victorieuse. Et de considérer que maintenant, je suis avec toi. C'est important que nous puissions nous aussi apprendre à regarder ce qui est devant nous, parce que Dieu ne nous invite pas à fuir les problèmes, à fuir les difficultés, mais Dieu nous demande de regarder nos défis et de les regarder avec une manière qui plaît à Dieu. Il y a devant nous toutes sortes de montagnes, mais Dieu nous invite à appeler, Dieu nous invite à regarder à l'avance le miracle qu'il est en train de préparer, d'anticiper en quelque sorte la victoire, d'anticiper la délivrance et d'avoir finalement, eh bien, sur ces murailles, sur ce qui nous paraît impossible, ce regard qu'on appelle le regard de la foi. Seigneur, je t'invite ce matin à regarder ce qui est devant toi avec les yeux de la foi. À regarder non pas en étant abattu, découragé, en disant « mais je vais encore perdre une fois, je vais encore être vaincu ». Non, tu n'es pas vaincu, tu es vainqueur. Amen. Tu fais partie du peuple de Dieu. Et tu as le droit de remporter la victoire parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alors on est appelé à voir ce qu'on ne voit pas encore, mais à voir avec les yeux de la foi ce que Dieu est en train de préparer. C'est ce qui va se passer aussi pour Moïse. Quand on relit le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13, connaissez ce passage, à un moment donné, ce peuple d'Israël va être acculé devant l'ennemi, les Égyptiens sont derrière eux. Devant eux se trouve une mer infranchissable et le peuple commence à avoir peur, le peuple commence à paniquer. Moïse va parler au peuple. Et Et Moïse va dire, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez la délivrance, ce verbe regarder, c'est le même mot que nous avons dans le livre de Josué. Lorsque Dieu dit à Josué, vois, regarde. Dieu dit la même chose aussi à Moïse et dit, regardez, regardez cette délivrance que je suis en train de préparer. Ce peuple était loin de voir la délivrance, ce peuple ne voyait que la défaite. Ce peuple voyait la déroute. Et Dieu est en train de dire par l'intermédiaire de Moïse, regardez différemment, regardez la délivrance. Dieu nous bouscule dans notre manière de voir et on connaît la suite de ce passage. En effet, Dieu a manifesté ce jour-là une grande délivrance. Ce peuple d'Israël a pu traverser à pied sec cette mer rouge. Et tout ce peuple ensuite a pu louer Dieu dans un esprit de victoire. Oui, les Égyptiens ont été anéantis à tout jamais. Nous ne pouvons pas soupçonner à l'avant tout ce que Dieu est capable de faire, mais ce matin, nous pouvons simplement faire une chose et dire, Seigneur, oui, je veux regarder différemment. Aide-moi à regarder à cette délivrance, alléluia, parce que tu es le Dieu de la délivrance. Parce que Dieu est celui qui est capable de faire de grandes choses. Nous, nous sommes bien limités, ne voyons que des petites choses, des impossibilités. Mais notre Dieu est grand, grand par sa puissance. Et rien n'est impossible à lui. Qu'est-ce que pour lui-même d'ouvrir la voie, d'ouvrir le chemin, alors que tout semble barricadé. Oui, c'est ce qu'il a fait pour Moïse. Et c'est ce qu'il va faire aussi pour Josué. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième principe que nous découvrons aussi dans ce texte, c'est d'investir le terrain. Dieu va dire à Josué que maintenant, c'est aussi le temps de l'investissement. Il va parler de cette manière, d'une manière un peu surprenante, mais il va dire, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours et le 7e jour... Vous ferez 7 fois le tour de la ville. Si on fait bien les comptes, eh bien, ils ont fait 6 plus 7, ça fait 13 fois. 13 fois le tour de la ville de Jéricho. Je vois que vous êtes bon en calcul. Hein. Faites le tour. Faire le tour, c'est le mot qui signifie entourer, envelopper, environner. Tourner autour, tourner de côté, encercler, se promener autour de cette ville. Faire le tour de la ville, pas simplement faire un petit tour comme nous on peut le dire, et puis on s'en va. Hein. Non, c'est faire le tour, vraiment encercler, et le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ces murailles puissent s'écrouler. Je crois aussi que le Seigneur nous demande de pouvoir investir le terrain. Nous sommes en France sur un terrain particulier, notamment dans le domaine de l'évangélisation, et nous connaissons tous ce terrain. Un terrain qui est difficile, c'est vrai, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et nous avons besoin, nous aussi, d'accomplir notre part. Dieu a demandé à Josué, à ce peuple, d'accomplir sa part, de faire le tour de cette ville, c'est-à-dire d'occuper le terrain. Occuper le terrain. Cela va dans le sens de la parole de Jésus quand Jésus a parlé un jour à ses serviteurs et notamment à ses disciples. Il leur dira, avant de partir au ciel, « Allez par tout le monde ». Et proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Le Seigneur est en train de dire à ses disciples, vous avez besoin là d'un esprit de conquête. Jésus demande à ses disciples de s'investir. Il va employer le verbe et dira aller, ce qui signifie qu'il va falloir conquérir des espaces. Il va falloir aller sur le terrain. Il va falloir se bouger en quelque sorte et ne pas rester simplement statique, immobile, mais il va falloir aller occuper ce terrain. Vous remarquez que pour le Seigneur, le champ, son champ, ce n'est pas simplement une petite région, un département, mais le champ pour notre Maître, pour notre Seigneur, c'est le monde. Aller par tout le monde. Et nous aussi, nous avons besoin d'avoir et de grandir dans cette vision de l'évangélisation. Que le Seigneur puisse élargir notre cœur, que le Seigneur puisse élargir notre esprit. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Pas simplement une partie de la planète, une partie de l'humanité, mais Dieu a une grande vision parce que Dieu a un grand cœur, Dieu est amour. Et Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que tous les hommes soient sauvés, nous avons aussi notre part à faire. Nous avons besoin d'occuper le terrain. Parce que si nous n'occupons pas ce terrain, l'ennemi, lui, l'occupera d'une manière ou d'une autre. Occuper le terrain, c'est savoir marquer son territoire. Et en lisant ce texte, on s'aperçoit que Dieu est en train de dire à Josué, mais il faut marquer votre territoire. Vous allez vous approcher maintenant de cette ville de Jéricho. N'ayez pas peur de ses ennemis. N'ayez pas peur de ces Cananéens. Approchez-vous et marquez votre territoire. Avancez en territoire ennemi. Je crois que c'est une pensée tout à fait biblique. Le Seigneur nous invite à ne pas avoir peur de l'ennemi, mais à avancer, à progresser. Et parfois, on est peut-être intimidé, on est parfois comme bloqué, comme arrêté, parce qu'on considère trop la puissance de l'ennemi. Nous voulons regarder ce matin la puissance de notre Dieu. Dieu est tout puissant, l'ennemi n'est pas tout puissant. Il n'y a que Dieu qui s'appelle le Dieu tout puissant. Et par conséquent, Dieu ne nous invite pas à contempler, à passer notre temps à contempler la puissance, les armes de notre ennemi. Dieu nous invite à nous investir. Dieu nous invite à aller. Dieu nous invite à occuper le terrain, à encercler l'ennemi, à marcher sur son territoire. Et nous voulons marcher sur les territoires de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit à propos de ces premiers chrétiens, ces premiers disciples, ils s'en allèrent partout annoncer la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. On voit bien à travers ce texte que ces premiers chrétiens, ces premiers disciples avaient compris la leçon de Jésus. Ils allaient, malgré ce qu'il y avait devant eux, malgré les obstacles, ils poursuivaient, ils avançaient. Et le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Je crois que si nous aussi, nous continuons à avancer, nous continuons à progresser, nous continuons à occuper le terrain, le Seigneur sera avec nous. Et le Seigneur va nous accompagner même de grands miracles, car rien n'est impossible. Il veut confirmer sa parole par des miracles. Gloire à Dieu. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres aussi. Dans les premiers chapitres, nous découvrons la croissance de l'Église de Jérusalem. Quelle merveilleuse croissance! Ils commencent à atteindre des chiffres remarquables. Ils sont plusieurs milliers de membres. Et puis, à un moment donné, on dirait qu'ils sont là un petit peu dans le statu quo, ils stagnent un peu. Et voici qu'arrive ce chapitre 8, il nous est dit qu'il y a eu une grande persécution. Et à cause de cette grande persécution, alors les chrétiens se sont déplacés en Samarie. Et dans ce chapitre 8, nous découvrons ce que Philippe va réaliser. Il va annoncer le nom de Jésus en Samarie. Des foules entières vont venir écouter la parole de Philippe. Ils vont se convertir à Jésus-Christ. Et il va y avoir un merveilleux réveil aussi en Samarie. En lisant ce texte, on s'aperçoit que malheureusement, il a fallu une période de tribulation pour que l'Église de Jérusalem puisse aller plus loin dans la conquête de son territoire. Parce que rappelez-vous la parole de Jésus qui dira dans Actes 1:8, « Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, cette puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, mais aussi en Samarie. » C'était le plan de Dieu, c'était le projet de Dieu. Dieu désirait que ce peuple, cette église, puisse aller jusqu'en Samarie. Et il a fallu eh bien, que le Seigneur puisse permettre ce temps particulier, ce temps d'épreuve, pour que son église aille plus loin. Sommes heureux aujourd'hui de vivre dans un temps de paix. Nous ne sommes pas encore persécutés. Est-ce que nous savons profiter de ce temps? Ou est-ce que nous devons attendre un temps de persécution pour aller plus loin, comme le peuple de Jérusalem? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à comprendre. Parce que nous ne sommes pas obligés de passer par une tribulation pour conquérir des espaces. Nous ne sommes pas obligés eh bien, d'attendre que la tribulation nous tombe sur la tête pour commencer à agir. Le Seigneur nous invite à conquérir, à occuper le terrain. Et si nous gardons dans notre cœur cette flamme, amen, si nous gardons dans notre cœur ce désir d'avancer, alors nous allons pouvoir aller beaucoup plus loin. Et que Dieu bénisse notre pays de France. Amen. Faites le tour, dira le Seigneur à Josué. C'est aussi apprendre à être visible. Dieu demande à ce peuple plus de visibilité, être vu. Les ennemis d'Israël ont été certainement surpris lorsque ce matin-là, ils ont vu eh bien, un peuple tourner autour de cette ville, se disant « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» C'est vrai que cela paraît illogique, surprenant. Mais en fait, ce peuple d'Israël est en train de faire quelque chose d'important. Ce peuple est en train de se rendre visible, même devant les yeux de l'ennemi. Et je crois que c'est aussi une valeur importante, être visible. Ça rejoint la pensée de Jésus qui dira un jour que nous sommes la lumière du monde et que notre lumière doit luire. Une lumière, par définition, elle est appelée à briller, appelée à rayonner. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous aussi, nous puissions être rayonnants, que son Église soit rayonnante. Le Seigneur dira, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le plan du Seigneur, ce n'est pas que nous puissions vivre notre vie chrétienne d'une manière cachée, mais que nous puissions apprendre justement à extérioriser notre foi. Puissions véritablement eh bien, dire, Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Je suis heureux d'afficher la couleur. Alléluia. J'ai une couleur particulière, j'ai la couleur de Jésus. Je possède le nom de Jésus, je connais le nom de Jésus. Je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir au peuple de Dieu. Je désire non pas être caché, être invisible, mais je veux apprendre à être visible. Et c'est ce que Dieu va demander à ce peuple. Soyez visible. Vous allez tourner. On va vous voir. Et certainement que ces habitants de Jéricho ont commencé à se poser des questions. Et quelques-uns avaient de la crainte. Quelques-uns étaient dans l'insécurité. Oui, nous sommes des enfants de lumière. L'Église d'aujourd'hui est donc appelée à être plus visible par ses actions, ses opérations, ses œuvres, ses entreprises, ses projets. Ça nous pousse à nous sortir de notre réserve, de notre confort, de notre zone de sécurité. Et que Dieu bénisse bien l'Église de Istres, alléluia, qu'elle soit encore plus rayonnante pour la gloire de Dieu. C'est bon de faire connaître le nom de Jésus dans notre ville, là où le Seigneur nous a placés, de faire connaître le beau nom de Jésus dans les quartiers, dans les entreprises, dans les universités, même dans les hautes sphères, ils ont besoin aussi de la grâce de Dieu, surtout en ce moment. Ils ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus, faire connaître l'évangile dans les écoles, faire connaître l'évangile dans les familles, être visible, être encore plus visible, alléluia. C'est comme ça que nous pouvons gagner du terrain. Et c'est comme ça que nous pouvons devenir conquérants, alléluia. Investir le terrain, c'est aussi s'appuyer sur la stratégie de Dieu, s'appuyer sur la vision de Dieu, sur la parole de Dieu. Dieu va donner ici dans ce texte une stratégie vraiment hors norme, hors catégorie. Dieu va dire, vous allez encercler cette ville de Jéricho et les murailles vont tomber. C'est une stratégie qui est en dehors de toute logique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que vous pensez que dans les universités, dans les écoles où on enseigne la guerre, les militaires vont enseigner ce genre de stratégie en disant « Vous allez eh bien faire le tour et vous allez voir, vous allez gagner. » Pourtant, c'est la pensée de Dieu. Pourtant, c'est la stratégie de Dieu. Pourtant, c'est la vision de Dieu. C'est la stratégie de l'encerclement. Elle n'est pas académique, comme on dit. Elle n'est pas universitaire, elle n'est pas conventionnelle. Elle vient de Dieu. Je crois qu'on a besoin aussi de réaliser ce matin que si on veut être efficace, on a besoin d'être en phase aussi avec la pensée de Dieu. Je crois que Dieu a certainement aussi des stratégies pour nos villes, des stratégies pour nos régions, des stratégies pour notre pays de France. Ce qui est important, c'est d'être dans le plan de Dieu. Ce qui est important, c'est d'être en phase avec la pensée de Dieu. On veut parfois eh bien, copier des méthodes du monde, parfois les appliquer, pensant qu'elles sont peut-être efficaces aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'évangélisation. Je crois qu'on a besoin de se laisser conduire par le Seigneur. Josué avait besoin d'être conduit dans cette prise de Jéricho. Et Dieu lui a parlé au bon moment. Dieu sait nous parler. Amen. Dieu sait se révéler. Dieu veut agir avec nous. Dieu veut aussi porter le projet avec nous. Nous ne sommes pas seuls à porter le projet. C'est Dieu qui est aussi avec nous. Il a son mot à dire dans la stratégie. C'est une stratégie qui est proche de la stratégie du maillage. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est pratiquée aujourd'hui, même dans le monde. Dans le domaine de l'entreprise, beaucoup la pratiquent. Cela consiste eh bien, à occuper la géographie du terrain, créer des sites, des points stratégiques, pour en fait encercler les cibles et optimiser les objectifs. Regardez un petit peu la franchise Afflelou. Vous la connaissez, cette franchise Afflelou, elle pratique la stratégie du maillage sur tout le pays de France. Et vous pouvez aller un peu partout dans toutes les villes de France, vous trouverez eh bien, un magasin Afflelou. Hein. Afflelou, c'est fou, hein, c'est vrai. Mais il n'est pas si fou que ça, parce que lui, il a la stratégie. Hein. Alors, les gens du monde ont aussi leur stratégie. Mais je crois que nous, ce qui est important, c'est la stratégie de Dieu. Et cette stratégie de l'encerclement, elle est vraiment surprenante, mais on la retrouve dans un texte lorsque Élie, un jour, a fait cette prière. Vous connaissez ce passage, un jour, Élie était entouré de prophètes de Baal et il leur a dit, eh bien, vous allez prier vos dieux et on va voir s'ils vont répondre. Alors, ils se sont mis à prier. Hein. Ils ont prié leur Dieu, et bien sûr, il n'y a pas eu de réponse. Élie s'est un petit peu amusé avec ses prophètes en disant, mais continue à prier, ils sont peut-être partis en voyage, prie un peu plus fort. Ah, ils ont prié un peu plus fort, ils se sont fait bien toutes sortes d'incisions dans leur corps, etc. Ça a été l'échec, aucune réponse. Mais Élie, lui, il va préparer un feu. Et la Bible nous dit qu'il va mettre sur le feu beaucoup d'eau. Et il va faire cette prière en disant, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui encercle leur cœur. » Intéressant. « Et que c'est toi qui encercle leur cœur. » Ça a été traduit dans notre version par le verbe « ramener ». Mais le vrai mot, c'est le même mot que nous avons dans Josué chapitre 6. Et Élie va prier de cette manière. Élie a été exaucé sur le champ. Alléluia. Le feu est tombé. Alors que, eh bien, il y avait là ce sacrifice qui était rempli d'eau. Et voici que ce jour-là, eh bien, Élie a démontré que l'Éternel était le Dieu vivant et vrai et qu'il était capable aussi d'encercler les cœurs. Alléluia. Je crois que la stratégie du Seigneur aussi pour qu'une âme se convertisse, c'est de l'encercler dans le bon sens, de l'encercler de son amour. C'est un encouragement aussi pour chacun d'entre nous. Je pense aux parents chrétiens qui prient pour leurs enfants. Je pense à tous ceux qui ont à cœur eh bien, de voir des proches se convertir, vous prier. Mais le Seigneur entend votre voix. Alléluia. Il est en train d'encercler leur cœur. C'est sa stratégie. Il encercle leur cœur de son amour jusqu'à ce qu'un jour ils puissent se convertir. Dieu a des stratégies. Alléluia. La stratégie efficace, elle passe aussi par une bonne organisation. On le voit dans Josué chapitre 6. J'ai regardé un peu de plus près l'organisation. Brièvement, premièrement, il y a le corps d'armée, il y a un groupe d'attaque. Deuxièmement, il y avait 7 sacrificateurs et derrière eux, l'Arche de l'Alliance. Et troisièmement, il y avait un corps de défense, l'arrière-garde. On voit dans ce texte qu'ils sont bien organisés. Je crois aussi que si nous voulons travailler efficacement, voir la gloire de Dieu, ça n'empêche pas le fait que nous devons aussi nous organiser un peu, être un peu plus ordonnés dans notre manière d'agir. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce texte. Et on découvre deux choses importantes. La place de l'Arche de l'Alliance, elle se trouve où ? Elle se trouve au milieu. Au milieu, au centre. C'est le symbole de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre à réussir sans la présence de Dieu. Et c'est une indication très intéressante qui prouve que Dieu cherche à être au milieu de son peuple. Dieu veut être au milieu. Et je crois que le Seigneur veut être au milieu de nous ce matin. Au milieu de son Église, il est important que nous ayons soif de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'être autour de cette présence de Dieu, de nous réchauffer dans la présence de Dieu, mais d'agir aussi, de servir avec la présence de Dieu. Le Seigneur a dit un jour ces paroles, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans la présence du Seigneur. C'est bien d'être organisé, mais c'est important que le Seigneur soit aussi au milieu de cette organisation. Alléluia. Et puis, il y a là une suite qui est en marche, bien structurée. Les attaquants, les milieux, les défenseurs. Ça vous fait penser à quoi, hein ? Une équipe de foot. Les attaquants, le milieu, la défense. J'ai entendu aussi rugby là-bas. Alors, je ne vous parlerai pas de l'OM hein, ce matin, hein, rassurez-vous. Mais on voit qu'il y a là de l'organisation. l'attaque, le milieu, la défense. À l'attaque, il y a ceux qui ont les armes, ils sont armés, ils sont en première ligne. N'est-il pas écrit dans l'Épître aux Éphésiens, et Paul le dira, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si nous voulons combattre, nous avons besoin d'être équipés. Si nous voulons être efficaces, nous avons besoin de prendre les armes de Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien sans ses armes? Il ne peut pas aller bien loin. Et l'ennemi va en profiter. Nous avons besoin de saisir ses armes. Vous connaissez la liste des armes. Elles sont puissantes, elles sont efficaces pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Que le Seigneur nous donne de réaliser combien c'est important que nous aussi nous puissions avoir à cœur une bonne organisation pour sa gloire. Amen. C'est que Dieu est un Dieu d'ordre. On le voit dans ce texte. Israël ne se déplace pas dans le désordre, se déplace dans l'ordre. Et certes, ils ont la stratégie de Dieu, mais ils sont aussi organisés pour avancer et pour réussir. Amen. Troisième principe, se faire entendre. Alors là, c'est aussi surprenant de la part de Dieu, mais Dieu va dire à ses sacrificateurs, maintenant, vous allez aussi sonner de la trompette. Sonner de la trompette. Le mot trompette signifie chauffard. Voilà, c'est un mot hébreu. Ça n'a rien à voir hein, avec les chauffards hein, qu'on rencontre, surtout à Marseille. Hein. Chauffard, la trompette. C'est un instrument de musique particulier, c'est un instrument de musique avant. Ce n'est pas comme les trompettes que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Elles sont faites à partir d'une corne de bélier. On souffle dedans, ça produit un son particulier. Et je crois que cela nous interpelle aussi, se faire entendre. Dieu demande à Josué, à ce peuple, de se faire entendre. Nous aussi, vous savez qu'on est appelé à se faire entendre dans ce monde. On a mieux que les trompettes. On est appelé à faire retentir le message de l'Évangile. C'est notre trompette à nous. C'est la proclamation de l'Évangile. Je redis ce texte de Jésus qui dira « Allez par tout le monde et prêchez ». Il emploie le mot « prêcher », mais c'est le mot « proclamer ». Proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Proclamer, c'est parler fort. Amen. Proclamer, c'est dire sur les toits. Proclamer, c'est publier. Et l'invitation du Seigneur, c'est que nous aussi, nous puissions publier, pas n'importe quoi, mais nous publions la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut. Pierre le dira, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce jour-là, il a sonné de la trompette. Alléluia. Il a proclamé le salut. Et des milliers de personnes se sont converties à Jésus. Eh bien, nous n'avons pas d'autre moyen si ce n'est de continuer à proclamer la bonne nouvelle, à proclamer l'Évangile. Cette bonne nouvelle, elle est contenue dans une seule personne, c'est la personne de Jésus. Paul dira, je prêche Jésus-Christ, mais je prêche Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Finalement, ne soyons pas si compliqués que ça. Lorsque nous voulons sortir la trompette, annonçons Jésus. Proclamons simplement le nom de Jésus. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir faire retentir ce son, nous faire entendre. Une église silencieuse, comment peut-elle progresser ? On a besoin de sortir les trompettes, alléluia. On a besoin de continuer à faire partie de ceux qui proclament de tout leur cœur, par tous les moyens, de toutes les manières, mais que nous puissions continuer à proclamer cette bonne nouvelle. Ce monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 69, il nous est dit « Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, et il s'agit de Jésus. » Et ce mot « puissant » nous parle de cornes. Vous savez que Dieu a dit à Josué « Tu sortiras les trompettes, les sacrificateurs sonneront des trompettes et de la corne. » C'est la corne retentissante. Jésus représente pour nous, eh bien, ce matin, cette corne retentissante, puissante, à faire entendre à toute génération. Alléluia. C'est donc savoir se rendre audible. Et c'est important que nous soyons visibles, mais c'est important que nous soyons aussi audibles dans notre monde, dans notre génération. Qu'est-ce que le monde entend de nous ? Qu'est-ce qu'il entend de l'Église ? Qu'est-ce qu'il perçoit ? Quel est le message qu'il entend de la part de l'Église d'aujourd'hui, de l'Église de Jésus-Christ ? Il nous faut un son porteur. Il nous faut un son perceptible, compréhensible. On a besoin aussi d'un son qui soit clair. Vous savez que la trompette, quand elle sonne, il y a un son puissant, et il y a un son très clair. Dans l'Épître aux Corinthiens, il nous dit « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ?» Il faut que le son que nous communiquons aujourd'hui dans notre monde, notre société, soit un son clair. À ce sujet, malheureusement, beaucoup de doctrines circulent aujourd'hui dans les milieux chrétiens, voire évangéliques, des doctrines qui font du mal. Des doctrines qui rendent confus le message de l'Évangile. C'est un petit peu le temps de la cacophonie évangélique. Que le Seigneur nous donne d'annoncer un son qui soit clair. Parce que ce monde a besoin d'entendre le message clair de l'Évangile. Non pas quelque chose de frelaté, de dilué, mais le vrai message de l'Évangile. La trompette puisse émettre un son porteur, mais un son qui soit clair. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous faire entendre, gloire à Dieu. Remarquez que c'était que les sacrificateurs qui pouvaient jouer de la trompette, ils étaient loin du Saint-Esprit. Et je crois que si nous voulons annoncer cette trompette avec efficacité, avec un son puissant, vous le savez, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs, alléluia, en Jésus. Et nous pouvons recevoir cette huile spéciale, cette huile de l'onction du Saint-Esprit à travers le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quatrième principe, eh bien, il nous faut de l'audace pour entrer dans le plan de Dieu. Et là, ils ont commencé ensuite, après avoir entendu ces trompettes, à pousser de grands cris, dira ce texte. Cela m'a fait penser, en lisant ce verset, à la puissance de la prière. Je crois que si nous voulons avoir de l'audace aujourd'hui pour entrer pleinement dans le plan de Dieu, et pas simplement nous contenter, eh bien, de voir certaines choses, parce qu'une fois que la muraille s'est écroulée, il a fallu entrer dans Jéricho. Il a fallu s'emparer de ce que Dieu avait préparé. Il a fallu avoir de l'audace. Et comment l'Église aujourd'hui peut-elle avoir de l'audace si elle retrouve le chemin de la prière ? Si vraiment nous aimons la prière, si nous n'avons pas peur de pousser de grands cris devant le Seigneur, en invoquant le nom du Seigneur, en intercédant de tout notre cœur, alors le Seigneur saura nous accorder cette puissance dont nous avons besoin. Il saura nous développer en nous ce caractère, cette hardiesse, cette audace pour entrer, pour nous emparer de la bénédiction du Seigneur. La Bible parle de l'efficacité de la prière, la Bible parle aussi de l'intercession. Et Paul dira, ne vous inquiétez de rien, faites en toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Eh bien, je crois que si nous pratiquons l'art de la prière, l'art de l'intercession, les murailles vont s'écrouler. Alléluia. Beaucoup de murailles vont s'écrouler. Nous allons voir des murs abattus. Nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu va nous donner ce courage de nous emparer de la promesse de Dieu. Il nous est dit ensuite, ce peuple monta. Ainsi se termine ce chapitre, ce peuple monta. Je crois que quand on commence à prier, on ne peut que monter. Est-ce que nous désirons monter ce matin? Monter plus haut, aller plus haut. La prière ne pourra jamais nous faire descendre. Si une église veut aller plus haut, si une église veut monter, si une église veut voir eh bien, des murailles s'écrouler, elle aura toujours besoin de se réfugier dans la prière. Alléluia. Une église qui prie, c'est une église qui avance. Une église qui prie, c'est une église qui voit ses murailles s'écrouler. Une église qui prie, c'est une église qui a du succès aussi dans l'évangélisation. Et la prière a l'art de nous remonter. On est parfois en bas, on est parfois découragé, mais quand on revient à la prière, Dieu nous fait remonter. Vous connaissez l'histoire de Jonas. À un moment donné, il est allé très très bas, au fond de l'abîme. Et il dira, j'ai invoqué l'Éternel et tu m'as fait remonter. Tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Alléluia. Alors, nous croyons à l'efficacité de la prière ce matin. Nous croyons que si véritablement nous sommes nous aussi eh bien, concernés par la prière, alors Dieu va aussi agir en notre faveur. Alléluia. Dieu va aussi manifester sa gloire et sa puissance. Voilà les quatre principes que je voulais laisser sur votre cœur ce matin. Appliquons-les simplement. Alléluia. Demandons au Seigneur sa grâce pour les appliquer et Dieu va nous permettre de voir de nombreuses murailles s'écrouler. Que Dieu nous donne sa grâce parce que Dieu a des plans merveilleux, je crois, pour son Église, pour cette génération. Dieu aime cette génération. Et il y a devant nous, c'est vrai, beaucoup de choses qui se dressent. Il y a devant nous comme des impossibilités. Mais Dieu est tout-puissant. Alléluia. Qu'est-ce que pour le Seigneur d'abattre quelques murailles? Il le fait. Si nous accomplissons notre part, il le fera. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que ce matin, tu nous as instruits encore à travers ce texte. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as envoyé ton Fils afin que nous soyons sauvés. Oh, ce matin, nous voulons regarder à toi, voulons avoir de toi, Seigneur, cette vision, cette pensée conforme, Seigneur, à la tienne, afin que notre cœur soit renouvelé dans la foi et que tu nous donnes, Seigneur, cette capacité de nous emparer, Seigneur, de ce que tu as mis devant nous. Merci de bénir, Seigneur, ton Église. Merci de lui faire du bien. Merci de lui permettre encore d'aller plus loin. Merci parce que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour notre pays de France, afin que tu le bénisses aussi. Tu vois toutes ces murailles qui sont là devant nous. Mais merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et nous croyons, Seigneur, que tu veux nous accorder cette grâce de voir ce réveil, de voir cette bénédiction du Seigneur, de voir l'Esprit de Dieu agir. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour ton action par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Amen. Amen.